Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Docteur Ayahuasca est la première bande dessinée comme auteur et illustrateur de Yann Kounen, réalisateur à succès pour le cinéma, un récit autobiographique qui est l'aboutissement d'un travail débuté il y a plus de 20 ans qui participe à une triple actualité avec en plus une exposition au Quai Branly, excusez du peu, et un livre d'entretien avec le chanan François Demange. Nelly Portal et Fred Michel sont partis à la rencontre de l'Ayahuasca de Yann Kounen qui nous raconte ses expériences autour de ce psychotrope obtenu à partir d'un mélange de deux plantes. On vous laisse découvrir tout ça, ainsi que sa passion pour le dessin et la bande dessinée.
Dis bonjour Yann Kounen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle et merci à Nelly qui va m'accompagner pendant cette rencontre.
Bonjour à tout le monde.
Donc on est là aujourd'hui pour parler de votre bande dessinée, j'ai bien dit bande dessinée, Docteur Ayahuasca qui vient de paraître chez Très Daniel. Alors Yann, on vous connaît en tant que réalisateur, mais on ne vous connaissait pas en tant qu'auteur de bande dessinée. C'est né quand cette passion pour la bande dessinée? Il y a très très longtemps.
Oui, alors c'est logique qu'on ne me connaissait pas parce que c'est la première fois que je fais une BD comme dessinateur. Moi c'est ce que je voulais faire quand j'étais jeune en fait. Je voulais être dessinateur de bande dessinée, je ne voulais pas être cinéaste. Et donc j'ai vraiment œuvré entre 14 et 25 ans pour être dessinateur de bande dessinée. Et puis quand j'étais aux arts décoratifs, à un moment donné j'ai commencé à faire du cinéma parce qu'on m'a forcé à le faire. Et quand j'ai vu vous savez, c'est les exercices d'école. Et en fait, en faisant du cinéma, j'ai vu que j'étais à l'aise avec ce médium pour raconter des histoires, que c'était un travail collectif, un cirque ambulant et joyeux qui me convenait aussi. Et puis, donc voilà, et donc à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais je vais plutôt faire du cinéma. Et donc, j'ai fait du cinéma pendant des années. J'ai utilisé le dessin entre-temps plutôt pour faire mes storyboards. J'ai toujours dessiné. Jusqu'au moment où en 1999, là, j'ai rencontré le monde indigène et l'ayahuasca. Et là, c'était des expériences très fortes. Et quand je suis revenu en France, il fallait que je dessine pour mémoriser ces expériences.
C'était un besoin viscéral ou juste pour vous souvenir?
C'est toujours particulier quand vous vous dites il faut que je dessine parce que j'ai peur d'oublier, puis il faut que le dessin va me raconter des choses, il faut que je fasse l'instantané d'une nuit en un dessin, je dirais. Et je crois que j'avais vraiment peur d'oublier, alors que j'ai rien oublié, mais c'est pour ça que j'ai commencé. Et puis quelques années plus tard, après j'ai fait des films, D'autres Mondes, Blueberry, etc. Donc j'ai fait des films qui concernaient ce sujet. Et dans ces années-là, en 2003, 4, 5, je ne me souviens plus vraiment, j'ai un jour commencé à dessiner une petite bande dessinée, une petite histoire de 10 pages sur l'ayahuasca, qui est celle-là, là, qui est dans la galerie. Et je me suis dit, il faudrait vraiment, c'est tellement un sujet incroyable que la BD s'adapterait tellement bien pour pouvoir partager les états, l'aventure, puis c'est tellement riche en... C'est une belle façon de raconter aussi. Et puis j'ai laissé cette BD de côté parce qu'après tout, le cinéma m'a rappelé plus fort et puis... Puis parce que j'avais pas d'autres envies que juste de le faire et de voir que ça marche. Puis je me suis dit, quelqu'un va le faire de toute façon à un moment donné.
Mais personne ne l'a fait.
Et il y a un an et demi, il y a David Dupuy, le commissaire d'exposition, qui me contacte en me disant, je vais faire une grosse exposition au Quai Branly dans laquelle je voudrais qu'il y ait des dessins, ton expérience de réalité virtuelle. Parce que moi, j'ai continué sur le sujet, sur l'ayahuasca, à travailler autour de sa représentation. Et donc, je savais qu'il allait avoir cette exposition qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et qui avait être un focus sur les plantes, sur l'ayahuasca, sur les chipibos, et il y aura mon travail au milieu de tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que je devrais finir cette bande dessinée. Et puis ça traînait. Et j'ai rencontré Guy Très Daniel à un moment donné parce qu'on faisait un livre déjà qui était Métaverse et que moi je voulais faire Ayahuasca, donc j'ai déjeuné avec Guy et là il m'a annoncé qu'il allait se lancer dans la bande dessinée. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, mais attends, moi j'ai telle bande dessinée. Il dit, ben, ok, faisons-la. Et voilà, il m'a mis dans les pattes d'une éditrice formidable qui est Marie Pichon. Et à partir de là, l'album... Alors à partir de là, j'avais un temps limité, j'avais un peu moins d'un an. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que là, le cinéma m'a laissé tranquille pendant 6 mois. Complètement tranquille. Donc j'ai organisé mes dessins de manière... j'ai fait 40% de dessins qui n'étaient pas faits pour relier les différentes étapes. Et donc, du coup, j'ai fait un exercice très libre de me laisser guider parce qu'en fait, à part cette petite histoire, il n'y avait pas de structure. Et donc, je me suis dit, je vais laisser l'inspiration et les dessins me guider, trouver les textes et faire les résonances et raconter mon histoire.
Quelle est la différence avec l'ouvrage qui était paru chez Mama Édition, les carnets de voyage intérieur ? Il y a plus de textes peut-être dans le livre chez Mama Édition que la bande dessinée que vous éditez chez Très Daniel.
Alors en fait, ça n'a pas grand-chose à voir parce que toujours dans ces territoires-là, dans ces territoires-là, le temps a un effet particulier. Le médium a aussi un effet, va vous permettre de faire certaines choses que vous ne pouvez pas faire. C'est vrai qu'il y a une dimension un peu poétique quand je décris certaines des choses dans le livre de Mama Édition, Carnet de voyage intérieur. Dans la bande dessinée, je pense que c'est autre chose. C'est 10 ans plus tard, une autre façon de raconter l'histoire, un autre moment, bien qu'il y ait des choses qui sont forcément les mêmes. Hein. Et puis surtout, le dessin, je pense, est vecteur, et le rapport du texte et du dessin et de la narration est complètement différent. Donc, moi, j'aime explorer, que ce soit avec le cinéma, la réalité virtuelle, l'écriture, et la bande dessinée ou le dessin, la peinture, de toujours travailler autour de cet espace, de comment partager cette chose qui est tellement différente de notre expérience de réalité telle qu'elle est là quand on discute entre nous et le reste de notre vie en général. Voilà, et donc c'est très différent, c'est différent, c'est pas à moi de dire, ce que je sais juste c'est que en fait il y a deux appendices, c'est-à-dire quand j'ai fait chez Mama Édition Carnet de voyage intérieur, j'ai fait aussi le petit manuel de la West Cairo débutant à la fin parce que je pensais que les gens, je m'étais rendu compte comme mes films étaient sortis, les gens étaient venus dans la jungle, je les croisais et donc moi j'avais quelques années d'avance sur les autres, je leur donnais des conseils parfois, les gens venaient me demander et je voyais les conseils qui marchaient pas, puis à force de répéter toujours la même chose, je me dis peut-être je devrais faire un petit guide sympathique, juste dire attention à ça, c'est pas bon pour ça, c'est bon pour ça, voilà. Et j'ai fait ce guide et je pensais en allant voir Guy Trédaniel et en faisant ayahuasca avec François Demange qu'il serait temps, vu qu'il s'est passé 10 ans et que beaucoup de gens sont allés dans l'Amazonie, d'avoir quelque chose de beaucoup plus avancé sur la nature plus précise de qu'est-ce qu'un chant, comment il ouvre l'ivresse, qu'est-ce qui se passe pour le guérisseur, comment doit être le patient, etc., etc., etc. Et de faire un livre vraiment dédié à ça à travers cette conversation. C'est toujours dans l'idée de partager, c'est plutôt pour des gens qui connaissent déjà les plantes ou en tout cas, qui vont apprendre des choses, parce que je trouve qu'on parle... Il n'y a pas assez de gens qui pratiquent profondément la médecine, qui écrivent dessus. Voilà. Et là, François, ça fait 27 ans, moi, ça fait 25 ans. Donc, je pensais que c'était intéressant de partager ça.
Justement, pour les gens qui ne connaissent pas la plante, qu'est-ce que c'est l'ayahuasca ? On sait qu'on la mélange avec une autre plante pour déclencher un phénomène qui va nous amener à une expansion de conscience. Mais peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est l'expansion de conscience et ce qu'est cette plante. Et on rappelle qu'elle est interdite d'utilisation en France.
Alors, l'ayahuasca, c'est le nom d'une plante qui est une liane. Et elle est mélangée avec la chacruna qui est une autre plante de manière à ce que les principes actifs de l'ayahuasca puissent passer dans le sang et donc c'est une combinaison qui n'est pas que chimique, c'est-à-dire que l'ayahuasca va provoquer l'ivresse physiologique. L'ivresse physiologique, c'est une ivresse très particulière qui n'a rien à voir avec les autres ivresses qu'on peut avoir avec de l'alcool ou d'autres choses. C'est une ivresse qui vous positionne dans une perception du corps totalement différente, donc forcément un peu vertigineuse et tout de suite la peur entre en jeu en fait, hein. Vous sentez les fluides dans votre corps, ça va ouvrir un espace de relation entre le corps et l'esprit dans un premier temps. Donc c'est un état de conscience qui est modifié, c'est un état cognitif différent. Et il se peut ou pas, donc vous pouvez avoir des sensations physiques très fortes, des pensées très étranges, et vous pouvez aussi avoir des visions. Et les visions, c'est une manière, c'est un dialogue que vous allez établir avec le docteur, qui est l'ayahuasca, parce que c'est une médecine. Alors, oui, c'est interdit chez nous, hein, c'est considéré comme une drogue et c'est au tableau le plus interdit, donc il ne faut pas prendre l'ayahuasca en France, et il faut faire attention à ça. Mais d'un autre côté, c'est un trésor national des peuples indigènes au Pérou.
C'est considéré comme une plante médicinale, vraiment, en Amérique du Sud.
C'est considéré par... Il y a une loi qui a été faite au Pérou, par exemple, qui fait que l'ayahuasca est un trésor national des peuples indigènes. C'est un trésor national dans l'usage traditionnel des peuples indigènes. Et donc, voilà. Donc, pour ça, je dis toujours, allons au Pérou, parce qu'il vaut mieux d'abord le prendre avec l'ayahuasca, avec les indigènes, et, parce que c'est leur culture, c'est leur savoir, et c'est donc forcément dans ces espaces que vous avez le plus de connaissances. Et voilà, et donc c'est une plante qui va, alors pour les indigènes, c'est la médecine, et cette médecine va rééquilibrer votre être émotionnel, sentimental, et voir voilà, et votre, aussi vos traumas, la psychologie, les différentes choses. Il y a des contre-indications, j'en parle à la fois dans la BD et dans le livre, il y a des contre-indications où c'est pas une bonne médecine pour certaines choses, mais c'est ça l'ayahuasca, c'est-à-dire que vous rentrez dans un autre espace et il faut faire attention parce que nous dans notre monde on a tendance à penser bon bah c'est une plante, c'est une drogue, c'est des molécules. Non, c'est un esprit qui va rentrer.
Comment vous l'avez rencontré cette plante? Comment vous l'avez connue et pourquoi vous avez décidé de... Vous avez été convaincu, vous vous êtes dit c'est ça dont j'ai besoin, parce que j'ai compté, vous avez fait 500 prises d'ayahuasca, enfin vous le dites dans l'ouvrage, durant 24 ans, et je me suis dit oulala, mais il allait 20 fois par an au Pérou. Je me suis souvenu qu'on prenait plusieurs fois la plante en un séjour, il y a tout un protocole de préparation. Donc comment tout ça s'est mis en place pour vous?
Ah oui, non, je ne suis pas allé 20 fois par an au Pérou, hein. Je suis allé peut-être une fois, deux fois, mais je suis resté longtemps. Et c'est comme ça que ça... Que ça cumule les cérémonies et les diètes.
Parce qu'il y a tout un protocole de préparation, on n'y va pas à la légère. Et d'ailleurs, vous mettez les gens en garde, effectivement, vous venez de lui dire, il ne faut pas y aller si on est, par exemple, bipolaire. Il y a un protocole de diète juste avant, parce que c'est quand même une plante qui est, entre guillemets, je dirais pas violente, mais quand on la prend déjà, ça n'a pas bon goût. Vous avez eu droit à quel millésime, parce qu'il paraît que c'est vraiment pas bon, ça a une saveur assez âpre.
En fait, c'est une. En fait, il y a deux types de diètes. Il y a la diète pour se préparer à aller prendre les plantes. C'est une diète assez légère, c'est assez simple. Il faut éviter certains aliments, le sel, le sucre, les graisses saturées, la viande. Les énergies un peu fortes de nos vies, comme les énergies sexuelles, un petit peu avant, comme ça. Et bien sûr, pendant que vous êtes là-bas, faire attention. Et après, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle les diètes, ce qui n'a rien à voir. Les diètes sont les diètes pour se soigner ou pour apprendre. Et ça, ça va être la prise régulière d'autres plantes. Et par exemple, dans la pharmacopée de nos plantes, on a en Europe le chêne et la rose. On se dirait que c'est évident. Mais dans le chemin, en le faisant de la manière traditionnelle des Chipibos, on va relationner avec la rose, relationner avec la médecine du chêne. Et ça, pendant un certain temps, qui peut varier de 10 jours à 1 an, on s'isole dans la forêt et on va recevoir l'enseignement de cette plante à travers l'ayahuasca, mais pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on peut aussi profiter d'une médecine indigène sans prendre l'ayahuasca. Par contre, le guérisseur va vous chanter, lui, sous l'effet des plantes pour ouvrir le canal vers cette médecine de la plante que vous allez diéter. Et en général, il va vous donner une plante par rapport à l'affection que vous venez traiter en allant en Amazonie pour ça, quoi. Donc voilà le rapport aux diètes.
Et quelles affections vous souhaitiez soigner pour ce qui vous concernait? Et quand on revient en France, est-ce que on n'a pas l'impression d'être en décalage, de ne plus être dans un monde dit normal? Comment ça se passe le retour en France?
Oui, alors c'est vrai que l'intégration est une des choses. Si l'expérience est très positive et magnifique et tout, l'intégration reste d'autant plus difficile, en fait. Donc l'intégration, c'est un point important et ça demande un travail. Surtout que moi, dans les années où j'ai commencé ça, donc c'était en 99, c'était absolument inconnu. Donc j'étais un peu seul, vraiment, à me dire qu'est-ce que je fais avec ça. Et puis petit à petit, j'ai trouvé des gens racontant ces histoires. Dans les amis, ça fait des tris, mais en même temps, des gens auxquels vous vous rapprochez et puis vous repartez en Amazonie avec, et etc. Parce que quel que soit l'aspect positif, il y a quand même un mouvement, un choc tectonique. Et donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est-à-dire, au pire, il vous arrive... ça ne marche pas, ben, ce n'est pas grave. Hein, ou ça marche un tout petit peu. Mais si vous rentrez vraiment dans l'espace de ces plantes, oui, vous êtes à un moment donné un peu perdu parce que votre société ou civilisation n'a pas de réponse vraiment à vous donner. Sauf que maintenant, il commence à y en avoir. Et ça a été quelque part, moi, ce qui m'a un peu réconcilié ou en tout cas ma tentative de me rapprocher dans ma tribu de cet espace, enfin en tout cas de retrouver moi mon équilibre, parce que le fou, c'est pas celui, c'est celui, il communique avec quelque chose qui n'est pas partagé en fait, hein. Donc même si, alors moi j'avais la chance de partager un espace qui est partagé par les indigènes, donc par quand même une culture. Et donc quand j'ai fait D'autres mondes, mon documentaire sur le sujet qui raconte cette aventure comme Dr Ayahuasca le raconte dans Monde Dessiné, mais différemment, je suis allé voir les scientifiques parce que quelque part ils avaient fait l'expérience. C'est des scientifiques, ils ont dédié leur vie à essayer de comprendre comment ça marchait. Donc ça avait été fort pour eux. Et donc, ils me permettraient, quelque part, de partager, bien sûr, avec les autres, le film que je faisais. Mais le film était utile pour moi, pour essayer de retrouver une narration, en tout cas, qui me permette de retrouver une position d'équilibre dans ma propre société. On ne peut pas être en bascule trop forte. Et c'est... voilà. Aujourd'hui... je pense que d'un point de vue de la science, des choses bougent assez bien. Et je trouve que, par exemple, les belles réponses qu'on peut avoir avec Bernardo Castrup et leur, l'idéalisme analytique, ou son livre « Pourquoi le matérialisme est absurde », il y a des très bonnes vidéos de l'idéalisme analytique sur YouTube. Et on voit qu'il y a vraiment un groupe de chercheurs d'Harvard, de machin, qui recherchent sur la conscience, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, hein, le paradigme premier, il est l'esprit dans le cerveau, et une science post-matérialiste se dirige vers le cerveau et dans l'esprit. Et ça, c'est vraiment ce qui permet de faire les ponts. Voilà.
Par rapport à l'exposition qui est en ce moment au Quai Branly, Vision chamanique, je dois dire aux personnes qui nous écoutent, Yann Kounen, qu'il y a une expérience géniale à faire avec des lunettes de réalité virtuelle et aussi les images de Blueberry que vous avez retravaillées. Donc je n'en dirai pas plus, je les ai testées, c'est assez bluffant. Et ça se rapproche vraiment de façon très exacte de la transe qu'on peut avoir quand on prend des plantes ou qu'on s'intéresse à des techniques de modification de conscience. Mais à chaque fois que vous prenez le breuvage, enfin, vos dessins sont assez vertigineux. Ça peut être stressant pour certaines personnes. Vous y retournez. Est-ce que c'est un travail de toute une vie? Et est-ce que vous avez terminé là-dessus ou est-ce que vous allez continuer d'exploiter ce champ?
Ah non, moi, c'est pas terminé. Je pense pas. Peut-être un jour, ça, c'est possible que ça s'arrête. Mais non, je pense que le temps permet de stabiliser. Et moi, comme je vous le dis, c'est une médecine. Donc, quelque part, quand je vais bien, je n'utilise pas les plantes. Et quand je sens que le monde me stresse un peu ou que je commence à avoir certains types de pensées, et notamment la pensée de me dire qu'il ne faudrait pas que je reprenne d'ayahuasca, à ce moment-là, je vais en prendre et je vais diéter, je vais remettre le système. Donc, c'est quelque chose que j'utilise à la limite quand ça ne va pas maintenant, aujourd'hui. C'est quand ça ne va pas que je vais faire. Alors après, vous avez un autre type de vie, c'est-à-dire que vous intégrez les diètes que vous faites. À chaque diète, vous apprenez d'autres choses. Et puis surtout, vous voyez que ça régule mieux votre corps émotionnel, sentimental, que ça apaise la créature que vous êtes, que ça l'a, comment dire... Ça rajoute de la présence et une perception plus sensible que vous avez de vous-même.
De l'environnement aussi, des gens avec qui on est en contact, on est en relation.
Voilà, donc pour moi, je continue pour ces raisons-là. C'est des moments difficiles. C'est ce que je veux dire, c'est que aux gens, c'est qu'il y a des moments difficiles. Il y a des gens pour qui c'est pas fait cette médecine. Des gens qui vont avoir peur et que la peur, elle doit se dominer et que parfois, on a du mal à la dominer. Donc, ça vous montre juste que la peur vous tient. Voilà. Et moi, c'est des choses qui me sont arrivées, mais qu'il faut laquelle il faut rentrer. Alors, l'expérience de réalité virtuelle, bien sûr que ce n'est pas une expérience d'ayahuasca, hein, puisque vous pouvez fermer les yeux ou enlever le casque si ça va.
C'est sûr qu'on n'a pas l'expérience corporelle que vous décrivez dans le livre, à savoir vomir tous ces troubles physiques qu'on a quand on ingurgite la plante.
Alors, les troubles ou l'extase de la même manière, hein, c'est-à-dire toutes les sensations physiques. Et puis, encore une fois, quand vous êtes dans un casque de réalité virtuelle, vous pouvez fermer les yeux. Quand vous êtes avec la plante, vous avez déjà les yeux fermés, vous avez les images, on ne peut plus rien faire en fait. Et donc vous êtes obligé de traverser l'expérience et elle est beaucoup plus intense, bien entendu. Mais ce que j'ai essayé de faire avec l'expérience et là où j'étais content, c'était que ça permet de s'approcher, d'un moment donné de se dire « Oula, effectivement je rentre dans un espace et c'est impressionnant. » Et ça, je crois qu'aucun autre média ne peut le, aucune autre, le cinéma ne peut pas le faire parce qu'il y a le quatrième mur. On est toujours un spectateur dans une salle. Alors, on s'identifie à l'émotion des personnages et de la scène et on peut avoir envie de sortir de la salle ou de fermer les yeux. Mais dans la réalité virtuelle, on est dans l'image et on se déplace et l'image, il y a cette fusion entre l'image et soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de proche de l'ayahuasca. La grande différence, c'est que cette image que vous voyez, en même temps, elle est complètement reliée à votre corps émotionnel. C'est-à-dire qu'elle paraît vous traverser tout en étant devant vous. Vous sentez ses mouvements en vous. Donc, c'est comme une image de soi qui est projetée. Et donc, à un moment, là, c'est sûr qu'il n'y a aucune échappatoire. Et donc, en général, ça déclenche de la peur. Mais voilà, quand à un moment donné, la médecine marche bien, on va vers une mort symbolique. C'est-à-dire qu'on doit se rendre à la médecine. Et on n'a pas d'autre solution. Et en fait, c'est très bénéfique.
Yann Kounen, on a exploré beaucoup de territoires dans notre histoire, géographique, mathématique, physique. Mais l'esprit, c'est quelque chose qu'on a peu exploré. Alors vous, comment vous retranscrivez cet esprit, cette mentalité? Comment le retranscrire en dessin?
Je pense que de tout temps, l'homme a représenté ça. Hein. Moi, je suis vraiment de tout temps. La peinture religieuse, spirituelle.
Mais voilà. Là, c'est un autre stade.
C'est les espaces, somme toute, quand vous rentrez dans des espaces spirituels, que vous voyez des esprits ou des saints, tu vois, dans les religions ou des choses comme ça, c'est somme toute des mots, c'est des formes, c'est des choses qui passeront à des fils de culture. Donc voilà, je pense d'ailleurs qu'à la source de toutes les religions, il y a des plantes, hein, ça paraît évident, faut lire le livre La sagesse interdite de Stéphane Schillinger, mais on voit bien tous les rapports qu'il peut y avoir avec les religions et les plantes, c'est-à-dire les états modifiés de conscience forts avec l'intelligence de la nature et des plantes. Donc moi, j'ai l'impression d'œuvrer dans un territoire qui est moins connu, effectivement, parce que ça, c'est le territoire de l'Amazonie et la représentation des visions. Mais en même temps, je ne suis pas un indigène, donc je suis un occidental qui a sa banque de données culturelles. Malgré tout, je suis quand même rentré très fort dans la banque de données des plantes et des indigènes, à savoir que ce que je vois, c'est ce qui est aussi décrivent, etc. Et que mon travail est de témoigner à ma manière, à travers la VR, le cinéma, les livres et la bande dessinée sur le sujet.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, depuis quelques années, ça va grandissant. Mais vous parlez de l'IN, l'intelligence de la nature.
Oui, parce qu'il faut quand même revenir à la base, c'est-à-dire, donc l'intelligence artificielle, c'est un mot un peu erroné, hein, puisqu'on est, en fait, ce ne sont que des algorithmes de plus en plus perfectionnés, et ça fait un peu tour de magie, parce qu'effectivement, ils peuvent s'appuyer sur une banque de données très large de la culture humaine, et donc...
C'est quelque chose qu'on nourrit, donc...
Voilà, je dirais que en fait, ce qu'on reproduit, c'est un petit peu le livre Métaverse, un peu sur le sujet. C'est-à-dire, est-ce que le Métaverse n'a-t-il pas toujours existé? C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de créer, avec d'ailleurs aussi l'intelligence artificielle, mais aussi cette capacité à aller dans des méta-univers, c'est-à-dire d'avoir une expérience comme une réalité, mais ailleurs, ensemble, mais on sait que c'est un monde virtuel, est-ce qu'on ne reproduit pas quelque chose qui existe comme possible pour l'homme dans la nature, s'il se connecte de la bonne façon à la connaissance, à l'intelligence de la nature via les plantes, et qu'il y a des espaces qui ont été fabriqués de manière à ce qu'on puisse développer une communication symbiotique pour être guidé aussi dans notre travail à faire dans cet espace nature, de manière à conserver les équilibres et prendre conscience de ce tissage du vivant. Voilà, donc moi j'appelle ça l'IN, oui, parce que j'ai fait cette petite dernière planche qui était un petit peu comme de la science-fiction, parce que c'est un peu la sensation qu'on a dans ces cérémonies. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être dans un vaisseau, Alors c'est et les visions sont quand même assez technologiques et spirituelles mélangées. C'est quand même cette chose étrange. Et donc je voulais mettre le texte en résonance avec cette sensation-là, de se dire voilà, la grande science et la grande technologie, c'est celle de l'esprit, et c'est les Indiens qui l'a. Et les Indiens, ils ont accès à ça et ils sont généreux de le partager avec nous.
Je voudrais qu'on revienne sur vos dessins parce que j'ai lu que donc vous travaillez sous forme de carnet de notes et ensuite ces carnets de notes, vous les avez recouverts de dessins, c'est ça ?
C'est uniquement ça. C'est-à-dire en fait, ce que j'ai commencé par prendre des notes. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était absurde mes notes, que c'était que de la pensée dans tous les sens. Et donc après, j'ai commencé à dessiner par-dessus des serpents qui représentaient le en fait au fond le vrai visage de mes notes, c'est-à-dire je me mords la queue, je tourne en boucle, etc. Et là, j'ai commencé en faisant ça à comprendre que par le dessin aussi, j'allais pouvoir aller plus loin parce que c'était ça le médium. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des dessins. En 99, ce que je racontais tout à l'heure, j'ai fait des dessins, puis après j'ai fait des planches, etc. Parce que je pense que c'est une des manières d'échanger. C'est-à-dire, face à un dessin, il y a des choses qui vont résonner ou pas pour une personne, mais si elles résonnent, c'est comme une poésie. C'est précis, mais imprécis. C'est énergétique.
Et en termes de process, vous dessinez... Au sortir de la prise d'ayahuasca, une fois sorti de la transe, où il y avait un travail de maturation, à quel moment vous dessinez ? En sortant de la transe, quelques jours après, quelques mois après, quelques années après, comment s'est mis en place le process d'utilisation du noir et blanc sur certaines planches, de couleurs pour d'autres ?
Alors ça s'est mis en place de manière intuitive. C'est souvent après, c'est-à-dire que les dessins, le plus tôt, j'imagine que le plus tôt, c'est une semaine après les sessions que je dessine. C'est en général quand je suis rentré. Quand je suis dans la jungle, je ne me mets pas forcément à dessiner. Mais par contre, je fais parfois des petits croquis. Pas au début, hein, mais dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, je fais des très simples croquis juste pour me souvenir. Parce que quand on enchaîne une dizaine ou une quinzaine de cérémonies, il y a un moment donné, on oublie quand même. Ou en tout cas, il va falloir un travail de méditation pour aller retrouver les espaces, les états et les espaces. Donc, je prends des notes. Mais faire vraiment un dessin, ça, c'est toujours après. Et c'est parfois, j'ai dessiné des expériences une dizaine d'années après les avoir eues. Hein. Là, je me disais, par exemple, que si je continuais, je devrais détailler la première expérience que j'ai eue, très très forte, hein, qui m'a fait basculer, mais je pourrais en faire une dizaine de pages et ça serait peut-être intéressant de revenir dessus. Mais je ne l'ai pas fait. Peut-être je le ferai, peut-être je ne le ferai pas. Je me laisse guider par le corps qui me dit maintenant il faut dessiner. J'ai parfois commencé un dessin, là je suis en train de faire des dessins où j'ai commencé sur une page à 3, puis après je me suis dit maintenant il faudrait que je continue, j'ai mis une deuxième page, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et je découvre, et puis après j'en ai rajouté en dessous, et puis je me dis ah d'accord, je suis en train de faire ça. Voilà. Et souvent, j'ai procédé comme ça, de la même manière dont j'ai assemblé l'album de bande dessinée. Et je crois que je veux vraiment conserver cette façon de faire qui est d'une grande liberté par rapport aux contraintes qu'il y a dans le cinéma. Et que je pense que c'est la manière dont je peux me rapprocher de meilleurs témoignages. C'est-à-dire qu'il faut que je ne mentalise pas à me dire je veux parler de ça et je vais dessiner ça. Il faut que je dessine quelque chose et comprendre ce que c'est. Alors après, je peux savoir pendant que je dessine, ok, je suis en train de faire ça, d'accord. Je fais une métaphore de ça. Alors ça, c'est vraiment directement la représentation, mais ça peut être une métaphore. Et après, je vais assembler des textes autour ou pas. Je ne sais pas, je me donne vraiment... Je vais essayer de conserver la liberté que j'ai eue en faisant ce premier album si jamais en tout cas, je vais continuer à dessiner, même lentement. Quand je dessinerai, je continuerai ce process pour l'ayahuasca.
On voit dans vos planches qu'il y a des figures géométriques. Ça rejoint beaucoup l'art des Chipibos, qui sont les tribus indigènes d'Amérique du Sud. Donc en fait, tout le monde voit la même chose au final. Il y a aussi la présence de l'anaconda, il y a plein de bêtes. C'est pas le monde des bisounours quand même. Et donc ce qui me questionnait, c'est vraiment, vous voyez tous les mêmes signes géométriques.
Alors après... Voilà, on dit que les esprits des plantes ont des patterns particuliers. D'ailleurs, chaque plante a une pattern. Tu peux la voir si tu vas diéter une plante, comme par exemple le pignon blanco. Tu vois ce bracelet, c'est du pignon blanco. Là, il montre son bracelet. C'est-à-dire que c'est des patterns qui a été vu par les Indiens. Ils disent ça, c'est le pignon blanco. Puis quand tu vas prendre la plante, à un moment, tu vas pouvoir voir ce pattern qui n'est pas juste un tissu qui flotte en pattern, qui est la matière avec laquelle les esprits sont fabriqués. Ou en tout cas recouverts, tu vois, voilà. Donc, moi, ce que je peux juste dire, je ne sais pas si on voit les mêmes choses. Je sais pas, parce que les Indiens ne vont pas te raconter le détail de leur session, mais par contre, ils font leur artisanat. Et là, tu vois que tu as vu certaines choses. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les gens qui ont vu mes films sont venus me dire à plusieurs reprises, tu as modélisé mes visions. J'ai jamais pu comprendre qu'on puisse modéliser mes visions. Et pareil avec l'expérience de VR. Ce qui veut dire qu'en fait, on arrive dans un espace sans doute d'archétypes, et les archétypes de la plante et de symbolisme dans lesquels on résonne tous, dans lequel le serpent est la médecine, donc c'est un anaconda parce qu'on est dans la jungle, et que les animaux, que les oiseaux, par exemple, sont aussi des vecteurs de certaines énergies, comme le colibri, et que ces visions sont récurrentes pour les gens, et donc elles le sont pour les Occidentaux. Les Indiens, je pense que je partage les mêmes visions, mais comment dire, voilà, en tout cas, je suis sûr qu'il y a ce rapport-là. C'est jungien, hein, peut-être d'une certaine manière. Voilà. C'est un langage. Peut-être que la plante se manifeste en esprit, et ce n'est pas sa forme propre, bien sûr, mais c'est l'archétype qu'elle va choisir pour dialoguer avec nous, parce qu'on sait que les plantes qui dialoguent avec le vivant et qui utilisent le vivant, comme les bourdons, et ben ils vont imiter la fleur, va devenir le corps d'une femelle avec l'odeur, la sensation. Le mâle va venir se frotter, va avoir un moment d'extase, et puis il va emporter le pollen. Et donc, comme ça, la plante va utiliser l'animal. Et si on prend l'ayahuasca, comme on est plus complexe qu'un bourdon, on pourrait peut-être se dire qu'il nous apparaît sous forme d'esprit, de divinité. Et puis après, que naturellement, dans notre chemin, on est peut-être plus complexe, on va polliniser plutôt des idées.
Pour moi, s'il y avait un mot qui pourrait vous définir, ce serait la curiosité, parce que vous êtes curieux dans votre cinéma, vous expérimentez, là on le voit avec votre bande dessinée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes curieux? Je fais référence à quelque chose que j'ai vu récemment sur votre compte Instagram. Vous êtes chez l'imprimeur, tout en haut, là, et je vois vos yeux, ils pétillent, là, devant la grosse machine. Donc vous êtes curieux, Yann?
Oui, je suis curieux. En plus, je suis curieux, tu vois, de découvrir, de faire un album de BD, c'est-à-dire de découvrir l'imprimerie. Et donc là, je pétillais parce que je me disais, bon, voilà, comment ça marche, c'est une incroyable machine et tout, tu vois. Donc je suis curieux de ce que l'homme, d'ailleurs, de ce que notre culture fait en technologie. Je suis toujours fasciné par ces objets-là. Et en l'occurrence, quand c'est mon album, je suis curieux par essence, mais je suis plus tellement curieux. Je suis moins curieux qu'avant, je pense. Je suis plus un explorateur. C'est pas par curiosité pure, en fait. C'est par... Je sais pas, c'est par exemple, c'est quel est l'autre, un nouveau moyen de communiquer autour de ce sujet qui est quand même assez important dans ma vie. C'est pas mon métier, hein. Mon métier est très important puisque c'est une passion et c'est le cinéma, mais les plantes et les Indiens, c'est quelque chose qui a changé ma vie, qui l'a éclairé, et j'aime cette idée de partager dans ma tribu, donc avec la BD ou les livres ou les films, de partager ça. Et peut-être la curiosité, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas encore un autre moyen, par exemple le théâtre, ça je pense, le roman, j'ai commencé à écrire, un stand-up sur ce que... Je sais pas, maintenant que j'ai fait la bande dessinée, j'ai envie de continuer. Donc c'est une forme de curiosité, mais une forme de diversité de l'expression artistique. Oui, c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire qu'en fait... Tu sais, c'est toujours pareil, c'est soit tu sais pas d'ailleurs forcément quelle histoire tu vas raconter, mais tu es quelqu'un d'un monde du cinéma, du roman, tu vois. Moi j'ai un monde et j'essaie de voir quelle partie de ce monde je peux traduire très fortement avec l'expérience VR de manière, et puis d'une autre manière avec la bande dessinée, et peut-être encore d'autres manières à venir.
On a vu que vous étiez passionné de bande dessinée. Est-ce que vous lisez encore des bandes dessinées, Yann Kounen?
Absolument. Ah,
quel genre de bande dessinée?
Ah, je lis un peu. J'aime beaucoup les bandes dessinées un petit peu documentaires aussi, ou très créatives. Alors sur le monde indigène, il y en a une, mince, j'ai oublié le titre, qui est un gros recueil de 5 albums. où ce sont des c'est de l'archéologie de Givaros. Enfin, ce sont les notre gouvernement qui se comporte dans le modèle amazonien des Givaros. J'ai plus le nom, mais il est magnifique cet album. C'est ce que je suis en train de lire. Par exemple, j'ai bien aimé aussi, je crois que c'est les Lettres d'Istanbul, ou en tout cas, c'est un dessinateur qui raconte toute sa vie en Turquie. Tu vois, j'ai lu une très belle BD sur l'art et la folie. Je me souviens plus du titre. Parce que comme j'ai fait des dédicaces, j'ai récupéré en plus des BD récemment qui est magnifique. Et donc, je trouve que, à travers par exemple ces bandes dessinées, je fais ces voyages. Et après, il y a Olivier Ledroit, par exemple. Tu vois, j'ai fait la préface de son livre, un très, très grand, magnifique ouvrage graphique de 3 kilos.
Qui est magnifique.
Voilà, qui est juste magnifique. Et par exemple, tu vois, quand je vois le travail d'Olivier, alors il y a beaucoup d'énergie difficile, on va dire. Mais quand tu rentres dans les univers, pour moi, hein, de Vika, et les univers féeriques, c'est des univers de plantes, c'est des univers que j'ai traversés. Alors, peut-être avec les diètes de plantes occidentales, parce que c'est des univers féeriques, mais de toute façon, c'est nappé de ce monde visionnaire où l'artiste est inspiré. On parlait de Moebius, mais Olivier Ledroit, c'est vraiment aussi dans ça, du point de vue purement de ce qu'apporte la BD et le voyage dans ces mondes, des témoignages pour moi, des voyages qu'on fait. Voilà, notre inspiration est connectée à des mondes réels qu'on manifeste, mais je crois à ça, moi, profondément. Et c'est vrai que, par exemple, ça c'est aussi un livre que j'ai reçu et feuilleté, je suis totalement fasciné par son travail. Et oui, je lis pas mal de BD. Je pourrais vous faire une micro shortlist de 5 albums.
Et Ludovic de Burme aussi.
Ah bah oui, ça j'en parlais. Ah non, c'est pas avec vous que j'en ai parlé. Non, Ludovic de Burme, là je travaille, j'aime beaucoup.
C'est pour ça que je vous amène sur ce chemin.
La cendre et l'écume, son dernier album autobiographique est magnifique. Mais avec Ludovic, je travaille sur Epiphania depuis 2 ans, ou même un peu plus, d'adapter en film d'animation sa trilogie Epiphania avec Naya Productions. Donc j'ai fait 900 dessins de storyboard, on fait des animatiques. C'est un très beau projet. Après, il est très artiste ce projet. Le cinéma a besoin de beaucoup d'argent, donc je ne sais pas quand il arrivera et se mettra vraiment en production, mais c'est un très beau projet. Donc quelque part, j'ai aussi... Voilà, la BD se rappelle à moi, ne serait-ce que même dans mon travail, en fait, voilà, dans le travail.
Vous avez accompagné pendant toute votre carrière aussi la bande dessinée?
Bah absolument, j'ai fait Blueberry quand même, donc c'était ma joie de pouvoir travailler avec Moebius. Toujours, mais à un moment donné, j'ai séparé le cinéma. Après Blueberry, je me suis dit, la BD, c'est un univers trop précis graphiquement pour que... Il y a trop de précision par rapport au roman, donc il ne faudrait peut-être pas que je fasse de nouveau une adaptation. Mais en fait, je suis sur là 2 adaptations, on m'en a proposé encore. Et en fait, comme maintenant j'ai fait un album, j'aime cette idée aussi de me dire, mais en fait, voilà, je suis dans le monde de la BD et mon cinéma ressemble a été mon éducation, ça a été Métal Hurlant et Pilote et Moebius Ouvrier, Bilal et voilà et Max Cabane et donc ça je dois juste, c'est logique que les, comment dire, que moi je vienne dans la BD peut-être, mais en tout cas que la BD revienne vers moi, et c'est sain parce que je suis un amoureux de la BD. Je voulais être dessinateur pendant les années les plus intenses émotionnellement quand on est de 14 à 20 ans. Et donc forcément, cet amour de la BD, il est profondément ancré en moi.
Je voulais rappeler que les bénéfices de la vente de votre bande dessinée Dr Ayahuasca, paru chez Trait Daniel, bénéfices sont reversés à différentes associations péruviennes des tribus Chipibos.
Alors, les bénéfices ne seront pas reversés à des tribus. Non, mais c'est bien. Les bénéfices seront partagés. C'est ce qui a marqué. Ce qui est marqué, ce sera partagé. Parce que c'est qu'une question, les choses sont des questions d'équilibre. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut partager s'il y a des bénéfices. Mais d'ailleurs, il faut aussi payer ses impôts si jamais il y a des bénéfices. Ça veut dire partager avec sa tribu. Puis avec ce qui reste, partager avec soi et les Indiens de manière équilibrée. Parce que c'est ce que m'ont appris les Indiens, c'est chercher les équilibres.
Merci Yann Kounen, j'espère qu'on se reverra pour parler du film avec Ludovic de Burme.
Merci à vous.
Voilà, on espère vous avoir donné envie de lire ce Docteur Ayahuasca. Évidemment, attention à tous les mélanges. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.